La Cité internationale des arts et le Centre national des arts plastiques se sont associés pour créer un programme de résidence pour les commissaires d'exposition et critiques d'art de la scène française. Du réalise une série d'émissions avec les commissaires lauréats de ce programme. Entretien avec Jade Barget, en conversation avec Thomas Conchou.
Jade Barget, tu es curatrice indépendante et critique d'art. Tu es diplômée du département Creating Contemporary Art du Royal College of Art à Londres et tu contribues aux revues Art Monthly, AQNB, Dire Critics, Los Angeles Review of Books, The Scene et Untitled Folder. Tu as cofondé avec Elisabeth Gabrielle Lee la plateforme curatoriale et le réseau Sing qui met en avant le cinéma et les arts visuels d'Asie de l'Est, du Sud-Est et de leur diaspora. Tu t'intéresses aux cultures de l'écran et à l'image en mouvement, ainsi qu'à leur influence sur la construction des subjectivités et des mémoires dans l'expérience spectatorielle. Dans un contexte post-cinématographique, tu t'intéresses notamment à la manière dont l'image en mouvement et les profondes évolutions des médias influent sur notre perception. Tu as collaboré en tant que curatrice invitée avec des institutions telles que l'Asian Film Archive à Singapour, le musée Nottingham Contemporary et Guest Projects à Londres. Tu as également travaillé comme assistante curatoriale pour le festival Transmédial 21-22, donc 2021-2022, de Berlin. Et tu conçois actuellement un programme pour le théâtre Gorky, toujours à Berlin, qui sera présenté fin avril 2022 et dont nous allons parler tout à l'heure. Tu vis désormais à Paris et tu es actuellement en résidence à la Cité internationale des arts. En novembre dernier, tu as co-curaté aux côtés de Naz Tugoglu et Alice Sarmiento une exposition intitulée Badly Buried à la Fondation Sandretto Rebodengo, à Turin. Vous présentiez 9 installations rappelant les 9 cercles de l'enfer imaginés par Dante en filant l'imaginaire du souterrain. Dans les entrailles du Palazzo Rebodengo, le sous-sol se métamorphosait. Vous en dites qu'il était terre, tunnel, subconscient, mine, donjon SM, grotte et tombe. Les notions de labeur, monstruosité, secret, illégalité, mort, société secrète, mais également survie, refuge et renaissance, trouver en ces lieux un sol fertile. Et j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Bonjour Jade.
Salut Thomas.
Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était cette expérience de résidence avant la résidence finalement, parce que tu étais aussi en résidence à la Fondation Rebodengo, et comment tu as co-curaté cette exposition avec 9 installations dans les... Alors est-ce que c'était vraiment les sous-sols de la Fondation
C'était pas uniquement les sous-sols, il y avait aussi le rez-de-chaussée et c'était pas dans la fondation, c'était dans le Palazzo Rebodengo qui se situe dans la campagne un peu à 1 heure de Turin, qui appartient également à la famille, mais c'est beaucoup plus, je sais pas, il y a un côté beaucoup plus, c'est un palace quoi, mais de campagne, donc plutôt petit. Et c'était un projet de restitution en fait de la résidence. En fait, Badly Buried, c'est né, il y a plusieurs points de départ, mais l'un, justement, c'est le Palazzo. On était vachement un peu surprise par la différence, justement, entre rez-de-chaussée et souterrain. C'était, rez-de-chaussée et étage supérieur, c'était des salles avec des fresques, des beaux parquets, des immenses fenêtres, c'est très beau. Et ensuite, le souterrain avait quelque chose d'un peu plus, un peu plus brut. C'était des petits dédales d'escalier. Il y avait béton, pierre, c'était humide. Et il y avait des tunnels aussi qui avaient été condamnés. Donc, moi, la résidence, elle a été un peu compromise par la pandémie. Donc, on a fait la plupart de la résidence en ligne, à faire à peu près 300 visites de studio pendant des mois. Et il y avait à peu près 4 heures de visite par jour.
300 studios de visite.
Ouais. Enfin, c'était pas que des studios, c'était 300 rencontres. Donc, il y avait aussi des commissaires, des directeurs d'institutions, etc. Mais c'était à peu près 300 rendez-vous. Et en fait, donc, le premier point de départ, je pense, c'est... Donc, du coup, en fait, on a dû visiter ce palazzo en ligne aussi, à travers FaceTime, quoi. Et la coordinatrice mettait vraiment l'accent, je pense, sur la façon dont le corps se déplace. Donc, il y avait énormément de descriptifs un peu liés à l'espace, de descente, il y a beaucoup d'escaliers. de tunnels, etc. Donc ça, déjà, l'aspect un peu spatial du rez-de-chaussée et souterrain, c'était quelque chose d'assez présent qu'on a dû s'imaginer, mais aussi on a un peu laissé notre imagination partir, surtout quand on a vu, et ça c'est un autre point de départ, je pense, les tunnels condamnés. Il y avait très peu d'informations sur ces tunnels, donc du coup, bien sûr, il y a cet imaginaire qui est venu, qu'est-ce que ça a pu être, etc. Qu'est-ce qui y réside de matériel ou même paranormal, enfin, on s'est un peu amusé comme ça, quoi. Et puis, l'autre point de départ, bien sûr, c'était au sein de toutes ces visites de studio, une sorte de motif qui se répétait, c'était un peu la fascination pour le souterrain, que ce soit matériel, imaginaire, psychique. Donc voilà, il y avait pas mal d'artistes, en fait, qui travaillaient ces notions-là. Donc, on a décidé un peu de les inviter et d'occuper cet espace, quoi. Voilà.
Donc, c'était 9 installations, mais en enfilade, ou chaque artiste avait son propre espace dans les sous-sols?
Il y avait plus ou moins des espaces dédiés, ouais. C'était assez c'est intéressant de travailler avec ces espaces parce que c'est pas des white cubes, quoi. Il y a plein de petits recoins. Et après, on a essayé de faire en sorte que certaines installations débordaient. Il y avait aussi des performances qui liaient un peu les espaces, quoi. Mais... Oui, en fait, nous, on l'a pensé comme descente, quoi. Comme catabase, on a voulu utiliser ce motif des épopées grecques, de descente en enfer et de l'idée de refaire surface en ayant appris ou en ayant refaire surface de manière héroïque, etc. Donc, on l'a pensé en tant que descente et physiquement aussi, en fait, dans l'arrivée du palazzo, il y a cette sorte de grand escalier, puis un couloir. Enfin, tout était un peu... organisé autour d'une sorte de chemin qui faisait qu'on allait de plus en plus bas. Et puis, il y avait une sorte de remontée, quoi. Voilà.
Et de la part de l'organisme invité, enfin la fondation Rere Bonengo, en l'occurrence, quand vous leur avez dit que vous vouliez travailler dans les sous-sols et laisser tomber tout ce qu'il y a de prestigieux à habiter un palazzo comme ça, ils l'ont accueilli facilement?
Oui, ils l'ont bien aimé. Alors après, apparemment, au début, ils avaient un petit peu peur parce qu'apparemment, la directrice aime bien les belles choses. Ce qu'ils nous ont dit. Et il y avait quelque chose d'un peu plus sombre, je pense, dans notre proposition. Il y avait principalement cette idée. Il y avait un truc très pratique aussi, des tunnels qui sont fermés parce qu'il y avait des rats. Et du coup, au début, il y avait peut-être... C'était pas très prononcé, mais je pense que il y avait quelques doutes. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. On a aussi joué un peu sur l'architecture en installant des lampes qui auraient pu être là, et des lampes comme si elles étaient tombées aussi au sol. Ça, c'est des choses que je pense la fondation a apprécié parce qu'il y avait un réel jeu, une communication en fait avec l'architecture. Ouais, on a pareil. Enfin, c'est un grand couloir avec des énormes baies vitrées. On les a toutes. On a descendu un peu toutes les sortes de volets. Donc il y avait. Je pense que eux, ils ont plutôt apprécié l'aspect un peu plus sombre, le fait qu'on ait pu faire ressortir quelque chose d'un peu plus sombre de cet endroit, quoi. Voilà.
Et pour parler un peu de ce que tu prépares dans cette résidence actuelle, donc qui est ta résidence à la Cité internationale des arts à Paris, tu prépares cette programmation pour le mois prochain au Théâtre Gorki à Berlin, que tu conçois, si je ne dis pas de bêtises, comme des projections, mais qui sont vraiment habitées par un propos curatorial. Il ne s'agit pas vraiment d'enchaîner les films ou les objets vidéo. Il y a une vraie articulation entre... Donc, tu as 3 axes de travail dans cette programmation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais. Donc, en fait, c'est un peu l'évolution d'un projet que j'avais fait avec... Nottingham Contemporary et une artiste qui s'appelle Tuyan Nguyen-Chi, qui est aussi une amie, une collaboratrice. On avait créé une forme d'atlas. On s'était intéressé à la cartographie, mais une cartographie qui serait plutôt... ce serait plutôt un exercice de désorientation, de confusion. Donc, on a les mêmes... On partage certaines recherches, dont la question de la façon dont l'image en mouvement influence nos mémoires et nos histoires aussi. Donc il y a un terme qui était assez un élément, enfin un concept qui était assez intéressant important pour nous, c'est la question de la mémoire prosthétique. C'est Alison Landberg qui écrit sur ça. C'est l'idée qu'on a des mémoires d'événements qu'on n'a jamais vécu. Et en fait, ces mémoires, elles peuvent être créées notamment par le film, le cinéma, etc. Et donc, du coup, les questions intéressantes, c'est aussi donc, qui crée ces mémoires pour nous. Une des grandes forces, je pense, de créer une des entités qui crée énormément de mémoire, c'est Hollywood. Et donc, du coup, Han s'est posé la question au niveau de son propre héritage. Elle a créé des films qui questionnaient un peu la guerre du Vietnam. Elle, ses films traitaient ça de manière un peu personnelle, familiale, intime. Et c'était une sorte de proposition une sorte d'alternative au récit en fait de la guerre du Vietnam qui est principalement raconté par Hollywood, donc les États-Unis, donc les perdants aussi, mais qui quand même ont réussi à gagner cette force un peu de narration de l'histoire quoi. Donc ça c'était une sorte de carte dynamique. C'était pendant la pandémie aussi, donc du coup on a dû retranscrire ça en ligne, qui permettait un peu de naviguer d'image en image. En cliquant sur des images, on arrivait sur des films, des vidéos, des trucs comme ça. Et ça parlait un peu de la mémoire prosthétique, la façon dont ça pouvait être créé. Donc il y avait, par exemple, sur la guerre du Vietnam, il y avait une série de films, plus ces vidéos, etc. Mais donc, pour la projection pour Berlin, c'est le même exercice de désorientation, en fait, à travers la cartographie ou l'atlas, quoi. Par contre, là, on regarde un peu plus dans la direction de... On a toutes les deux été assez transformées par les théories du média environnemental ou média élémental, notamment les écrits de John Duran Peter, qui, en fait, dit que c'est acquis, en fait, l'idée que les médias sont tellement présents que c'est devenu notre environnement. Mais lui, il se pose la question de la façon dont l'environnement, donc les éléments, le feu, le ciel, la mer, l'océan, sont également médias. Et que depuis toujours, en fait, on a lu le ciel pour se déplacer, lu la mer pour naviguer, etc. Pour développer des sciences également, comme la météorologie, l'astrophysique, etc. Donc, en fait, ces éléments sont réellement porteurs d'informations, donc sont médias. Donc, nous, on s'est intéressé là-dessus, on s'est intéressé à ça. Et on a notamment été intéressé par le côté un peu plus de visibilité compromise, en fait. Par exemple, en regardant le média du ciel, notre cartographie, elle pense à ce média-là. Mais surtout à travers tout ce qui est brume, nuages, brouillard, etc. Donc, ça, c'est large, de manière assez générale, ce qui informe un peu ce projet. Le premier jour, ça va être une projection performance où Anne, Thuan, Fabien Saul, qui est un écrivain, qui est aussi éditeur du Flâneur magazine, qui est principalement informé par la psychogéographie, et moi-même, on va faire une performance de projection. On a, au fur et à mesure de nos recherches, plein de petits matériels, de scènes de films, de vidéos qu'on a pu nous-mêmes enregistrer, etc., qu'on va projeter, lire des textes, etc., pour une sorte d'exploration un peu confuse, comme ça, du médiaciel et surtout de ces moments un peu de manque de visibilité. Et la question un peu, c'est dans ces moments de visibilité compromise, en fait, comment est-ce qu'on continue à faire sens, ou pas à faire sens, mais en tout cas à percevoir et à comprendre ce qui nous entoure, peut-être d'une manière un peu moins opticocentrique, quoi. Le deuxième jour, c'est une projection d'un film de Eduardo Williams, The Human Surge, qui établit une sorte de réseau en suivant la vie un peu ordinaire de jeunes milléniales aux Philippines, au Mozambique et en Argentine, qui sont reliés en fait juste par le fait de marcher, parler, se rencontrer, dire bonjour, sur la bise, etc. C'est très simple, mais en fait c'est une forme de cartographie à travers l'ordinaire qui serait qui serait vraiment lié à l'idée de marcher sur la Terre plutôt qu'une sorte d'idée de globalité, du réseau un peu global. Donc c'est ce contraste-là. Et le dernier jour, c'est un exercice d'évacuation à travers une performance de Neil Cutting qui s'appelle Remain Calm. Et là, il a été inspiré, c'est une sorte de chorégraphie avec les éléments, parce qu'il a été inspiré par les exercices d'évacuation au Japon, dans le contexte des écoles, des autres institutions comme ça, face aux catastrophes naturelles, il y a ces exercices d'évacuation, en fait. Donc lui, il a fait toute une sorte de chorégraphie et de danse qui parle un peu de la façon dont on est, en fait, chorégraphié par les éléments aussi. Il y a une constante discussion comme ça, corporelle avec. Et voilà, ça, c'est l'évacuation, la fin du programme.
Et ça, vous allez le performer?
Ça, c'est un performeur qui va venir sur scène, veut performer, et Neil n'est pas là. Donc du coup, Neil Cutting a beaucoup de robotique, c'est des performances avec plein d'objets comme ça. Et en fait, comme il n'est pas là, mais on souhaite quand même avoir une conversation avec lui, il va parler à travers son petit robot. C'est des robots, en fait, que les gens ont dans leur maison pour parler à leurs animaux. Et ça peut se déplacer. Il y a une caméra et tu peux voir et parler. Donc du coup, moi, je vais avoir le petit robot chien et je vais parler à Neil à travers.
Et est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un peu plus du réseau, enfin de cette plateforme curatoriale et ce réseau Zing que tu travailles avec Elisabeth Gabriel Lee et qui t'occupe depuis plusieurs années, si j'ai bien compris.
Ouais, depuis 2017. En fait, on regarde les pratiques artistiques de la région, mais aussi de leur diaspora. Avant d'être ici, j'étais pendant 8 ans à Londres. Donc ça, c'est vraiment né à Londres. On faisait un peu partie d'une sorte de communauté, justement, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, de personnes qui créaient des magazines, des expos, etc. Et nous, on avait un peu envie de se réunir, de participer à ça également, et puis aussi d'établir des sortes de connexions entre l'Asie du Sud-Est et Londres, et l'Asie de l'Est aussi. Donc, au fur et à mesure, on a organisé pas mal, quelques projections principalement. On a plutôt travaillé avec l'image en mouvement. Et récemment, la toute dernière, là, c'était Asian Film Archive. C'est plutôt du matériel un peu brut des années 70, 80, des films de série B du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et de Hong Kong.
Et est-ce que tu trouves la même communauté autour de ces questions essentiellement diasporiques à Paris, maintenant que tu es rentrée, puisque ça fait... Mmh. On s'est rencontrés quand tu venais de rentrer de Londres, si je ne dis pas de bêtises, l'année passée.
Ouais.
Comment c'est cette expérience de revenir ici est-ce que tu recrées ces réseaux de ce côté-ci de la Manche?
Je le souhaite. Je ne sais pas si c'est juste... un concours de circonstances ou pas, mais j'ai rencontré beaucoup moins de personnes qui font ce travail-là ici, dans l'art contemporain, quoi. Et par contre, à Berlin, les peu de fois où j'ai pu y aller, il y a réellement une communauté assez importante, bien sûr, liée au Vietnam, mais pas que. Thaïlande aussi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai peut-être retrouvé moins de personnes faisant ce travail ici. J'espère que je rencontrerai ces personnes bientôt. Ouais. Ça fait un an et demi que je suis revenue et peut-être que ça prend un peu plus de temps de découvrir ça, quoi.
Et est-ce que tu peux nous dire un mot du programme pour la transmédiale que moi j'avais vu passer en ligne et je trouvais ça extrêmement excitant comme format.
Transmédial, c'était un peu particulier cette année le format, parce qu'il y avait une nouvelle directrice artistique qui a décidé d'étirer le festival en un an, quoi. Donc il y avait un festival d'ouverture en 2021 et de fermeture en 2022. Et moi, j'ai participé au festival de fermeture qui était beaucoup plus... En fait, c'était un an de réflexion sur la notion du refus. Et au bout d'un an, en fait, je pense qu'on a le temps de devenir pessimiste. Et donc, du coup, le festival avait un côté très, un peu infernal, un peu apocalyptique, négatif, pessimiste, etc. Et en fait, c'était... Parce que, bon, la transmédiale réfléchit un peu aux cultures digitales et nos vies avec la technologie. Donc, du coup, là, c'était un peu aller à l'encontre du techno-optimisme ou du solutionnisme à travers la technologie, etc. et parler plutôt de ces relations un peu toxiques, difficiles. Donc, moi, j'ai travaillé sur le symposium qui s'appelait « This is not anarchy, this is chaos », qui vient d'une quote de « Vie pour Vendetta ». Et une citation de « Vie pour Vendetta ». Et en fait, on s'intéressait principalement à l'idée de la croyance, en fait, qui est vachement liée à l'idée d'algorithme, de conspiration, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment ce côté un peu moralisateur. Par exemple, il y avait des intervenants qui parlaient du conspirationnisme comme une forme de critique, en fait, et qui établissaient des liens... et des parallèles, ou en tout cas des similarités entre la pensée critique, la façon dont on va essayer de réfléchir les forces qui nous entourent, afin de les dénoncer, de regarder les informations un peu plus souterraines, de faire des connexions entre des choses qui sont peut-être un peu plus... qui sont peut-être un peu plus cachées, disons, et le conspirationnisme, qui est en fait plus ou moins la même stratégie, quoi. Donc il y avait ce côté, un peu en dehors de la morale, quoi. Mais et puis le deuxième jour, c'était plus sur l'idée de la dette et la façon dont on peut s'en extirper ou bien ne pas payer les dettes. Enfin, voilà, tout ce qui est un peu la dette dans le sens de la relation toxique à la technologie et comment la refuser, la négocier, etc. Et le format, après, c'était une forme de binge-watching, quoi, et une consommation un peu boulimique, en mode Netflix. Du matin au soir, il y avait projection, performance, lecture, conversation entre penseurs, penseuses, jusqu'à tard le soir, et voilà. Ouais.
Et toi, dans ta pratique quotidienne, la place de cette consommation, justement, tu peux la décrire comment?
C'est bizarre parce que je pense que avant boulimique, totalement, je regardais énormément de choses, et c'est peut-être comme ça que j'ai commencé à réfléchir à nos relations, justement, à l'image en mouvement, la façon, par exemple, moi, ça, une des choses qui m'intéressait aussi, c'est la façon dont ça infiltre les rêves. Enfin, regarder un film un peu gore, la façon dont ça peut un peu transformer comme ça au court terme ou même au long terme. Comment ça peut transformer nos subjectivités. Maintenant, j'ai réalisé ça, et d'ailleurs, ça a changé pendant la résidence. Mais il y a un moment où j'avais un peu cette frustration, où j'avais l'impression de lire beaucoup plus sur le film et l'image en mouvement que de la consommer, quoi. Et un des exercices qui, en fait, était aussi un grand plaisir, quoi, pendant la résidence, c'est de regarder énormément de choses et de m'autoriser, justement, ça m'a un peu donné l'espace pour juste me faire des journées, en fait, de vidéos, de films, etc. Et c'était du travail.
Et qu'est-ce que tu penses de tous ces... J'ai l'impression qu'on est... Ou bien c'est moi qui suis saturé de ces choses-là, mais d'être saturé de ces nouveaux formats vidéo où on regarde des gens en train de regarder quelque chose. Par exemple, I Like to Watch sur Netflix, c'était qu'un, mais qui ont un succès phénoménal. Mmh. En fait, tu regardes des personnes plus ou moins connues, qui t'intéressent plus ou moins, suivant quel format tu vas aller sélectionner, parce que c'est évidemment décliné en série, il y en a un peu pour tous les goûts, à toutes les sauces, etc. Mais ça change absolument tout de regarder des gens réagir à un objet filmique.
Ouais, c'est sûr. Mais en fait, en Angleterre, il y a ça. En plus, ils suivent des familles, ils retournent dans ces mêmes familles. Donc, tu t'attaches aussi aux familles et tu regardes en fonction des familles leur réaction, etc. Mais moi, ça m'intéresse que c'est... Enfin, du coup, on est en train de regarder le spectateur ou la spectatrice, cet acte, justement, de regarder devient regardable. Et aussi, ça, pour moi, c'est aussi une façon de communiquer, quoi. J'aime bien le fait que ça met en lumière, justement, la façon dont l'activité spectatoriale, c'est quelque chose déjà qui est active et communicante. Donc, on est constamment... Ouais, c'est... Et de toute façon, là, c'est intéressant parce qu'on le voit live, mais j'ai l'impression que ça forme énormément de nos conversations aussi. Enfin, dîner, etc. On parle souvent de ce qu'on a regardé, quelle série, etc. C'est aussi sur cette idée du partage de cette expérience spectatoriale. Je trouve que c'est assez intéressant.
Et du coup, peut-être pour terminer notre conversation, qu'est-ce que tu regardes en ce moment?
Je peux pas le dire. Ok, qu'est-ce que je regarde? Je regarde toujours énormément de films d'action, série B d'Asie de l'Est. Je pense que je le fais par plaisir, mais il y a aussi un truc... C'est des films qui sont vachement problématiques aussi. C'est pour ça aussi que j'en ai fait un sujet d'étude, mais que en fait, qui sont tellement excessifs dans leur... dans le combat, dans les effets spéciaux, mais excessifs, mais aussi un peu DIY, quoi. Et du coup, par exemple, des images qui vont être complètement dans l'excès, que je trouve vraiment magnifiques, mais complètement absurdes aussi. Donc, ouais, je regarde beaucoup de films d'action comme ça, et d'arts martiaux, de choses comme ça.
Super. Merci, Jeanne.
Merci.